Mais il faut bien voir, et c'est le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est qu'en même temps, ce n'est pas facile d'utiliser ce matériel qui est à la disposition des historiens des sciences. Parce qu'on dépend complètement du hasard des conservations, et là, naturellement, Anne-Marie en a dit quelques mots, parce que c'était bien sûr le cas. Il y a des lettres qu'on a, il y a des lettres qu'on n'a pas. On a la lettre à M. Truc, on n'a pas celle à M. Machin, on a la lettre, on n'a pas forcément la réponse, etc. Et ça part forcément dans tous les sens. Donc on se retrouve avec un matériel complètement éparse, et ça ne suffit pas d'avoir ces lettres, naturellement, pour en faire... on a des pépites, mais enfin, ça ne constitue pas forcément, ou nécessairement, ou immédiatement, un tout cohérent. Et c'est là-dessus, surtout, ce que je voudrais insister, parce que c'est là où je trouve que Anne-Marie a fait un travail extrêmement intéressant. Parce que, donc, d'abord, elle a choisi, sélectionné, ce qui n'était pas évident. Cantor est là. Enfin, la correspondance de Cantor avec un certain nombre de correspondants français qui sont eux-mêmes très divers. Il y a essentiellement des mathématiciens, mais pas uniquement. On l'a dit tout à l'heure. Donc, déjà, un public divers. Le fait d'être français n'est pas quand même... ne suffit pas pour donner forcément une unité complète à la chose. Donc, c'était une première difficulté. Et ensuite, donc, on n'était pas justement dans la situation très, très particulière de la correspondance Cantor-Dedekind, qui est... D'abord, on a la correspondance dans les deux sens, ce qui est très différent. Et ensuite, qui était sur la création du grand œuvre de Cantor, quoi. Bon, là, c'est pas ça. Donc, c'est quelque chose qui est plus étalé dans le temps, relativement divers, s'adressant à des gens divers. Et donc, il n'y avait a priori pas d'unité à faire. Et donc, là où je trouve que Anne-Marie a fait un vrai travail d'historien, historienne des sciences, historienne des maths, c'est d'arriver à faire un livre de ça. C'est ça qui était, je trouve, la gageure. C'est-à-dire que avec les îles flottantes, là, il fallait faire la sauce, donc elle a fait la sauce allemande, qui c'est très difficile à réussir. De façon à ce que chaque lettre qui flotte dans la sauce, qu'en tout on est un plat, quoi, et qu'on ne mange pas simplement des blancs à la neige les uns derrière les autres, ce qui était légèrement indigeste. Et donc c'est tout ça, cet exemple-là, que je trouve qui fait la cohérence du livre, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que cette sauce? Eh bien, cette sauce, c'est naturellement les liens, c'est-à-dire de nous raconter, de nous expliquer pour chaque lettre, pour chaque groupe de lettres, justement, le contexte, les raisons pour lesquelles, effectivement, Cantor, excusez-moi parce que je prononce Cantor, j'ai compris que c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Ça va. Comment chacune de ces lettres se place elle-même, ou comment ces différentes lettres se relient ensemble, ce qui, naturellement, n'a absolument rien d'évident. Donc, voilà ce que je voudrais, mais je vais terminer par là, parce que après la suite de ce que je voulais dire, beaucoup de choses ont déjà été dites. Ce que je voulais dire ensuite, c'est comment émerge effectivement à travers cette fraction de correspondance, un Cantor nouveau, une nouvelle image de Cantor qui n'est ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre que l'image que l'on avait avant la publication de la correspondance, en tout cas, encore une fois, pour le public francophone. On a, bien sûr, ça a été dit, le Cantor stratège, il y a un côté... stratège de Cantor qui apparaît extrêmement bien, en particulier avec la manière dont il joue justement de ses relations internationales pour contrer son isolement national. Ça a été dit et je n'y reviens pas, et ce d'autant plus qu'on est dans un contexte diplomatique délicat, comme ça a été souligné également. On a le Cantor militant associatif qui est effectivement, enfin en tout cas que je ne connaissais absolument pas, c'est pas uniquement le professeur de Halle, c'est pas uniquement le professeur en conflit avec les mandarins d'Erlangen et de Göttingen, c'est aussi du coup, enfin, d'ailleurs, c'est peut-être que ce militant associatif ou ce militant internationaliste sur lequel ça a été déjà, sur lequel on a déjà insisté, que ce militantisme fait partie aussi de sa stratégie de contournement, comme ça a été dit. Et donc, c'est aussi le cantor diplomate, on va dire, ou stratège qui apparaît à travers ça. Enfin, ce qu'on voit aussi, Anne-Marie en a parlé, mais je trouve que c'est très intéressant, c'est pareil au point de vue de l'histoire des maths, on voit aussi le rôle que joue, à contrario, en France, ces seconds couteaux des mathématiques, que sont Lézan et Lemoine, c'est-à-dire des mathématiciens de second plan, relativement à un certain nombre de Brochette, d'autres mathématiciens, en particulier Poincaré, Ré, l'Ermite, etc., avec qui Cantor est aussi en correspondance, mais le rôle de ces gens-là, sur lesquels s'appuie Cantor, mais qui, inversement, du coup, prennent une autre dimension, si je puis dire, non pas uniquement, non pas par le résultat, c'est pas des mathématiciens qui sont restés dans l'histoire des mathématiques en général, ou même l'histoire des mathématiques françaises par les théorèmes qu'ils ont pu démontrer, mais là, bien par leur rôle social et puis par ce rôle tout à fait particulier qu'ils ont eu avec, enfin, qu'ils ont entretenu avec l'un des plus grands mathématiciens de l'époque. Et donc, c'est aussi une façon, à travers cette correspondance, de revoir la profondeur, disons, de la communauté scientifique que l'on ne voit pas simplement si on regarde les auteurs des grands résultats, parce qu'il y a quand même une fascination et c'est difficile de lutter contre quand on fait de l'histoire des mathématiques. On s'intéresse effectivement aux gens qui ont démontré les théorèmes ou les théories qui sont les pères fondateurs des théories les plus spectaculaires. Donc, c'est naturel. Et là, on voit bien le rôle d'une communauté scientifique qui, plus large, qui apparaît dans toute sa profondeur. Il faut dire, j'ajoute un mot, j'en profite, puisque Anne-Marie a fait sa thèse sur Édouard Lucas, qui est aussi un peu un personnage à la fois de la même époque, et aussi un peu un personnage du même genre, c'est-à-dire quelqu'un sur qui les projecteurs de l'histoire des mathématiques ne s'étaient pas focalisés, pas beaucoup, jusqu'à la thèse d'Anne-Marie, et qui permettent justement d'éclairer et de reconstituer l'ensemble de cette communauté scientifique et ici cette position mathématique. J'ai encore 2 minutes. Deux points, enfin peut-être un dernier point, parce que le reste, je crois, a été dit. Un dernier point sur lequel je voudrais insister, souligner, c'est l'intérêt de cette correspondance, là, particulière, par rapport à la théorie des ensembles, donc, ou à la création, ou à la genèse de la théorie des ensembles, ou plutôt à la manière dont Cantor voit la théorie des ensembles. Bon, c'est pareil pour toute question technique. CF, la discussion, mais donc Cantor est donc le père de cette idée que d'abord il y a plusieurs infinis, que les infinis viennent déjà l'infini c'est long, surtout vers la fin, disait Woody Allen, et lui il en a rajouté une couche, et non seulement il en a rajouté une couche, mais il en a rajouté une infinité de couches. Donc on a une espèce d'emboîtement des infinis, et donc dans les théorèmes de Cantor, il y a le fait qu'il y a non seulement divers infinis, mais que ces catégorisations d'infinis sont elles-mêmes infinies. Et c'est vrai que quand on se penche un peu sur cette théorie, ça fait quand même des objets qui sont extrêmement, disons, conceptuellement difficile à manipuler. Et Cantor écrit la chose suivante dans une des lettres adressées à Paul Tannery, qui est ici traduite. « Je soutiens très largement la réalité de l'infini actuel in natura. » Bon, ça, c'est pas surprenant, parce qu'il y a un grand débat sur l'infini actuel et l'infini potentiel. Bon, Cantor est bien sûr un partisan de l'infini actuel, c'est-à-dire que l'infini existe en acte. C'est-à-dire qu'il y a, on manipule, non, c'est pas seulement le fait qu'on puisse rajouter des entiers à chaque entier, il y en a encore, et donc potentiellement il y a des ensembles qui sont infinis, mais il y a des objets qui sont infinis et que l'on peut manipuler en tant que tel. Ça, c'est un des piliers de la théorie cantorienne, mais il ajoute à la suite, mais surtout, si l'on parvient en un certain sens à attribuer une réalité au nombre fini 7 ou au nombre irrationnel racine de 2, il est certain que les nombres transfinis ne le leur cèdent en rien, tout comme les cardinaux transfinis ou les nombres ordinaux ou les types d'ordres. Donc, ça veut dire que pour lui, pour Cantor, son Aleph 87, je vous promets qu'il n'est pas commode, il a autant de réalité que le nombre 7, et ça, c'est un truc que je trouve complètement sidérant qu'on voit là dans cette correspondance aux racines de 2. Mais en même temps, on comprend que c'est bien parce que ces nombres infinis ont pour lui la même réalité, la même force qu'il a sûrement pu imaginer, cette théorie cantorienne. Bon, voilà, peut-être j'en reste là. Je pense qu'il est déjà assez tard. Et puis, ça me finit simplement en ligne de conclusion. J'avais prévu la conclusion suivante parce que Anne-Marie dit au début de son livre qu'il en reste, qu'il y a en tout, on connaît 700 lettres de Cantor. Je pense qu'il y en a pas plus qu'une petite cinquantaine qui sont traduites en français. Donc, je voulais lui suggérer de traduire les 650 autres pour sa retraite active. Merci.